Là-bas, si j'y suis, eh bien j'y suis. Gagny, mardi 30 mai 2006, 21h. Moins d'une centaine d'habitants du coin, une trentaine de journalistes, plus de 200 policiers, une noria de véhicules officiels, un hélicoptère, Nicolas Sarkozy visite la banlieue. Un simulacre de dialogue avec quelques jeunes devant les caméras, rapidement et brutalement interrompu par la garde rapprochée, dès que le ton semble vouloir monter un peu. C'est ce qu'Associated Press appellera dans sa dépêche quelques incidents, alors que ce n'était que des propos véhéments. Alors Nicolas Sarkozy entre dans le commissariat de Gagny, un furibond, entouré d'une bonne cinquantaine de flics, journalistes et officiels. Nous sommes à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de Clichy-sous-Bois, et il est accompagné de l'inénarrable Eric Raoult, qui a traité les habitants de cette ville, moi compris, et leurs représentants de honte de la France. Une demi-heure de conciliabule dans le commissariat, pendant qu'un déploiement invraisemblable de forces de l'ordre prépare la sortie. Un homme en civil, apparemment un policier, vu ses rapports avec les forces de l'ordre en uniforme, insulte copieusement quelques jeunes noirs et leur dit qu'ils ne, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays. Ils lui font remarquer qu'ils sont français. Sorti sous les flashs et les caméras, Nicolas Sarkozy se plante devant un groupe d'une dizaine de personnes et provoque un nouveau simulacre d'échange, de façon à ce que les caméras aient leur ration d'image. 3 ou 4 minutes plus tard, tout est dans la boîte, il s'engouffre dans sa voiture qui démarre sur les chapeaux de roue, pendant que l'hélicoptère recommence à tourner au-dessus de nos têtes. Nicolas Sarkozy vient de se pencher sur nos problèmes. Son cirque électoral fera prochainement étape dans votre banlieue.
Oui, Daniel, bonjour, c'est Agnès d'Auvergne. Il faut te dire que vraiment aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement d'Edouard Michelin, donc nous sommes très tristes. C'est quand même un homme qui, quand il est arrivé à la tête de la manufacture, a annoncé des bénéfices records et dans la foulée, le plan social. Donc, en son honneur, j'aimerais quand même que nous ayons tous une pensée pour lui et puis lui chanter une petite chanson. Je sais pas si vous voulez bien reprendre avec moi, ça fait « merci patron, je sais plus la suite, au revoir ».
Salut, c'est Richard de Grenoble. Après le nucléaire et les OGM, découvrez les nanotechnologies. À Grenoble, le 2 juin, le commissariat à l'énergie atomique inaugure Minatech, le plus grand centre européen en nanotechnologie. Jacques Chirac devait venir pour l'inauguration, mais il a annulé par peur de la contestation. En effet, l'opposition grenobloise aux nécrotechnologies organise une manifestation contre Minatech. Nous dénonçons les applications policières et militaires des nanotechnologies, la biométrie, les puces sous-cutanées, la vidéosurveillance automatique et autres mouchards électroniques. Nous dénonçons une science au service des multinationales et des militaires, puisque les recherches de Minatech seront supervisées par la Direction Générale de l'Armement et des grandes entreprises de l'électronique. La manif, c'est le 1er juin à midi, place Félix Poula à Grenoble. Venez avec des casseroles. Ce soir, à 20h30, à la Bifurque, rue Flaubert, toujours à Grenoble, on fait une grande réunion sur la nanotechnologie et les raisons de s'y opposer. Comme dirait le regretté Jacques Ellul, à bas le système technicien, vive le progrès social. Plus d'infos sur ogn.ouvaton.org. Ciao.
Je vous appelle pour vous parler d'un... Enfin, ce matin, j'ai arnaché un journal, j'ai vu un article qui m'a assez choqué. Il y a un ouvrier tunisien qui s'appelle Amara Khalifa, qui a été hier convoqué à la police dans le commissariat de Lannion. Et donc, il a été tout de suite mis en garde à vue pour être expulsé. Et voilà. Et donc il a une femme handicapée et un petit garçon qui s'appelle Joachim. Et voilà. Bon, c'est de voir ça en gros titre, ça m'a vraiment choqué, quoi. Donc je voudrais juste dire que ce soir il y a un collectif de soutien en sans-papier organisé à Lannion, à la salle Savidan, et ce sera à 20h30. Donc j'ai pas si je suis bien expliqué, mais franchement je suis super choquée, quoi. J'ai l'impression qu'on revient à des années noires, quoi. Voilà.
CNE pour le MEDEF, pas question de négocier. Il faut rappeler à l'inflexible Madame Parizeau que si sa situation privilégiée lui procure de l'argent et de l'épanouissement, on ne peut pas en dire de tout le monde. Exemple, cette femme licenciée du jour au lendemain pour avoir commis la faute d'être enceinte. Déjà précarisée par leur salaire, elle gagne 19% de moins que les hommes, ces femmes. Les voici précarisées par le CNE. Finalement, Parizeau rime avec De Villepin, Chirac et tant d'autres privilégiés eux aussi par le statut, souillés par les affaires, revenant après avoir été amnistiés, comme M. Guidru. Comment avoir confiance envers ce genre d'élite qui nous gouverne? À quand les élections de 2007 pour changer tout ce beau monde? Merci.
Bonjour, alors j'ai encore écouté l'émission sur Dubaï. C'est vrai que c'est formidable, Dubaï. C'est extraordinaire. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y ait des bonnes femmes qui parlent comme ça. Et ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que les peuples qui peuvent voter, votent pour des politiciens qui ont forcément un lien avec ces gens-là. Vraiment, je comprends pas. C'est vertigineux tout ça. Et quant au suicide des ouvriers ou à la mort accidentelle, franchement, c'est pas si grave que ça. Parce qu'un ouvrier qui se suicide, un ouvrier qui crève sur le chantier, ben, il sera remplacé. Donc ça, c'est un chômeur de moins. Voilà, c'est froid, mais c'est comme ça. Ça s'appelle de la gestion. Ciao.
J'ai suivi avec une énorme attention tous ces jours-ci le reportage réalisé à Dubaï. Et jamais une émission de radio n'avait autant remué de sentiments en moi. En fait, je suis abasourdie, ahurie face à la démesure des projets qui prennent forme là-bas et révoltée quand j'entends dans quelles conditions vivent et travaillent les ouvriers sur ces chantiers. Je suis dégoûtée, scandalisée par cette dame propriétaire d'un golf qui parle avec son air et son ton innocent et guilleret de ces hommes et femmes et puis qui révèle ensuite sans la moindre gêne qu'il faut 4,5 millions d'eau par jour pour abreuver son gazon. Et en fait, en plus de tous ces sentiments, il y a une espèce d'angoisse qui monte en moi. Et j'ai l'impression comme il veut être devenu fou. Il exploite ses congénères à mort. Il se retranche dans un univers de béton, d'air conditionné dégueulasse, d'eau et de sable chloré. Ça me fait peur. Il se fout de savoir d'où viennent ces millions de litres d'eau, toute cette énergie, toutes ces matières premières, tous ces hommes grimpés sur les échafaudages, ces coupes de la nature et de la vie. J'ai la trouille, mais je te remercie, Daniel, car au moins on est au courant. Et Dubaï, c'est un peu à l'image de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. En tout cas, ça donne au moins envie de se remuer. Merci.
Voilà, un très bon résumé des chapitres précédents. Merci à cette auditrice, merci à tous. Il y a des manifs en ce moment, ça bouge à Dubaï, et on apprend qu'il y a eu des manifestations, des grèves, des embryons de grèves évidemment combattus. Les ouvriers qui se sont mis en grève demandent une augmentation de 2 euros mensuels. On espère qu'ils l'obtiendront. C'est pas du tout gagné, mais Dubaï fait partie de ces endroits, ces marques, j'allais dire, qui craignent quand même pour leur image. Alors voilà, c'est la seule mince chance que peuvent avoir ces travailleurs qu'on va retrouver aujourd'hui. D'autres travailleurs dans le monde, au Bangladesh, vous vous souvenez de ces reportages que nous avions présentés au Bangladesh, notamment avec dans ces usines de confection à Dhaka, capitale du Bangladesh. On avait été témoin d'un incendie qui avait pris dans un atelier de confection où travaillaient des femmes. 50, 60, on ne sait plus très bien, ça n'a jamais été précisé exactement. On pense davantage femmes sont mortes dans cet accident, et on vous avait fait entendre les témoignages des survivantes, une jeune femme de 14 ans qui recherchait sa sœur de 11 ans qui travaillait aussi dans cet atelier. Eh bien, il y a des manifestations qui sont en lien avec cette situation, mais avec la situation tout à fait déplorable qui existe dans ces usines du Bangladesh, 4200 usines de confection au Bangladesh. Et là, ces jours derniers, il y a eu des manifestations dans nombre d'usines, 14 usines ont été brûlées dans ces émeutes ouvrières, 150 blessés, 2 morts. Et il faut rappeler que dans ces usines, on travaille pour des marques que nous portons tous, comme Gap, Next, H&M, etc. Et il faut rappeler à nouveau que les salaires ne sont pas payés, que les conditions sont épouvantables. Vous vous souvenez comment ce qu'on avait essayé de vous montrer, mais on voit que les salariés, eux, parce que généralement des femmes se battent pour leur survie. Autre chose avant de commencer, ceux qui veulent ouvrir des repères de la base du Suisse, qui évidemment nous comble de bonheur, ayez la gentillesse de nous laisser des numéros de téléphone de façon à ce qu'on puisse discuter un peu avec vous avant l'ouverture du repère. Et puis ceux qui, ben voilà, dans les repères fonctionnent. N'oubliez pas d'annoncer brièvement le prochain rendez-vous de vos repères. Voilà, on repart pour Dubaï, donc aujourd'hui, après les messages que voici, que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassigi. Je suis au 01 56 40 37 37.
Je vous appelle du bout du Finistère, au pays des Abers, à Lannelis. Il y a ici un collectif de citoyens indépendants qui se sentent le devoir de mettre sur la place des formes beaucoup plus imaginatives qu'actuellement pour ouvrir les débats, les imaginaires, les idées sur la culture, l'histoire, la monnaie, la santé et tout et tout. Nous organisons un premier festival des utopies. Ça commence cette semaine, mardi, et se terminera dimanche 3 juin avec un marché festif à Lannelis, un marché écolo-rigolo. Voilà, tapez festival sur la toile. Festival des utopies, vous aurez le programme. Voilà, merci et à bientôt.
Française, Français, la justice se met enfin en place. Guy Dru va représenter la France au CIO pour veiller sur le sport truqué et l'égalité des femmes dans les bordels du foot. Sentez comme la justice avance. Gérard de Colombes.
Ah, je voudrais savoir combien que le SMIC va augmenter, parce que on est quand même inquiet. Hein. Il faudrait qu'il augmente de 20%. Ça serait pas... ça ruinerait pas les grandes entreprises qui font des milliards de bénéfices chaque année. Francis Richet.
C'était pour dire tous les gens qui se réunissent d'habitude chez Tartus et compagnie pour le relais du Pas-de-Calais le premier jeudi du mois que ça n'aura pas lieu puisque nous avons une réunion à Saint-Paul-sur-Ternoise pour lutter contre l'implantation de l'autoroute A24. Donc la réunion est reportée au jeudi 8. Et là, chacun amènera sa bouffe pour fêter joyeusement l'arrivée des vacances. Voilà, au revoir.
Dubaï, c'est Dubaï Inc. Dubaï Incorporated.
On a eu récemment des clients étrangers qui nous ont demandé une bouillabaisse. Donc on a importé en moins de 24 heures tous les ingrédients et préparé pour eux ce plat.
Donc si je veux un cassoulet, c'est possible en 24 heures.
Tout à fait. Tout est disponible, j'ai envie de dire, toute l'année à Dubaï.
Ils acceptent et accueillent tout le monde. Ici, ils viennent, ils nous disent, venez partager notre succès. C'est ce qui fait le succès de Dubaï.
Nous travaillons toute la journée et puis quand nous retournons le soir, on n'a même pas d'eau pour se laver.
Et vous avez à manger quand même.
Ce qu'on nous donne, même les chiens ne vont pas le manger. Même les chiens vont refuser.
Vous avez après une saison qui est aussi très agréable, qui est celle de maintenant, qui est mai, juin, juillet, août. Peut-être un peu chaude, oui. Mais les piscines sont rafraîchies. Hein. On garde les piscines.
Mettez des glaçons.
Presque. Presque.
Et alors, quand est-ce que vous êtes rendu compte que vous vous étiez fait piéger?
Regardez l'état, le lamentable état des Bangladeshi là-bas. Dès qu'on arrive, on comprend. Si jamais je rentre au Pakistan, je vais me suicider, mais je ne reviendrai plus jamais ici. Je ne remettrai plus le pied.
Dubaï, Dubaï Inc. Dubaï Incorporated. Next generation destination.
Salut, c'est Daniel Mermel. Là-bas, si j'y suis, avec Guy Vanctil. Dubaï, Eldorado, libéral.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a Dubaï bomb, Mr. Abad.
Dubaï Palm, la conception, c'est par là.
Ah, le Palm, le fameux Palm, d'accord.
Ils ont fait d'énormes rampes d'autoroute, là, pour pouvoir y aller.
C'est colossal, pharaonique. À peu près par là, un petit peu plus loin, au large, on est en train de construire un archipel d'îles artificielles. Et les îles dessinent le monde entier. Une île, c'est une partie du Portugal, de l'Espagne, de l'Afrique, etc. Et là-bas, c'est Burj Al Arab. Cette construction en forme de voile de bateau qui fait 321 mètres de haut et qui est le symbole de la ville pour l'instant, avant d'être détrôné par d'autres exploits. Ce qu'il faut, c'est revenir dans 5 ans, et puis dans 10 ans, et dans 15 ans, dans 20 ans. Vous savez, il n'y a pas de trottoir. Rien n'est prévu si tu veux rentrer chez toi à pied, hein, ou en vélo. Dans 20 ans, ils se mettront en vélo quand ils sont tous bien gros, bien gras. Comment résumer Dubaï ? Tomber dans le cliché et comparer l'Émirat avec un conte de mille et une nuits ? Non ! À Dubaï, on ne rêve pas, on réalise son rêve, même le plus fou. Bienvenue à Dubaï. À Dubaï, la population a plus que doublé en 10 ans. Il y a 85% d'étrangers et désormais hérissé de tours et de grues, voilà Dubaï. Où que l'on se tourne dans ce pays de tous les excès, on se cogne à des projets ambitionnant d'être les plus grands, les plus beaux ou les plus chers du monde. D'ici à 2008 et 2011, cet état lilliputien de 1,4 million habitants verra apparaître la plus grande tour du monde, le plus grand aéroport mondial destiné à accueillir non plus 22 millions, mais 120 millions de passagers, le plus grand centre commercial de la planète, le Dubai Hall, une reconstitution des 7 merveilles du monde, plus grande que nature, des centres d'attractions tout genre qui viendront s'ajouter à la station de ski. 400 mètres de pistes rafraîchies quotidiennement par 6000 tonnes de neige artificielle, de quoi ravir tous les sens. De l'homo modernus en quête de sensations fortes et de soleil. La recette magique fonctionne déjà. La plupart des hôtels affichent complet. Les capitaux russes et arabes affluent grâce à la défiscalisation. Le PIB a plus que triplé en 10 ans. À peine commercialisé, les énormes projets Dubai Waterfront, Discovery Gardens, The World et Palm, ces îles artificielles destinées à devenir des paradis flottants version occidentale, se sont arrachés à prix d'or. Il est vrai que les expatriés privés de tout droit d'installation officielle ont la possibilité d'acquérir un bien immobilier. À Dubaï, les femmes vivent sans entrave ou presque. Les seuls costumes traditionnels sont ceux des riches dubaïotes qui évoluent visage découvert, abaya noir, joliment brodé, arborant fièrement sacs et escarpins griffés. Alors, la question se pose, faut-il aller à Dubaï ? Oui, si l'on aime le shopping et bien d'autres choses. Alors, bienvenue à Dubaï. Et il y a quand même pas mal d'autres choses. C'est là-bas si j'y suis, c'est sur France Inter. Et c'est jusqu'à 18h.
The beats to make it bang. Yeah, we got God down, we got you. Every day thinking about how we get through. Everything I own is on I owe you. But I'm here bringing y'all something new. You don't like the people, they don't like you. Then they're gonna set it off with the big boo. Son in the battle is a son and daughter too. What you wanna talk about? Who done who? What you wanna talk about? Slang tang, that's that M.I.A. thing. I got the bombs to make it boom. I got the beats to make it bang. Slang tang, that's that M.I.A. thing. I got the bombs to make it blow. I got the beats to make it bang.
Est-ce que vous pouvez nous présenter ça, Abdelaziz?
Alors, ça, c'est un complexe de ski. Un complexe dans le cœur de Dubai Land. C'est un dôme, c'est le plus grand dôme au monde, avec 220 mètres carrés de diamètre et 80 mètres de haut. À l'intérieur du dôme, ça sera l'hiver, 12 mois sur 12. Alors, on aura tous les sports d'hiver, du ski, du snowboard, du bobsleigh, il y aura des pingouins. Des vrais pingouins. Il y aura un parc de pingouins. Il y aura un hôtel 5 étoiles à l'intérieur. Des appartements à vendre aussi.
Autour. Là.
Autour. Vous pouvez acheter un studio, une chambre, deux, trois chambres. Et de votre appartement, vous pouvez voir les gens skier, la neige tomber. Et ça, au cœur de Dubai Land.
Et ça, ça rentre dans l'ensemble du Dubai Land.
Ça, c'est une partie de Dubai Land. D'accord. Dubai Land, c'est 44 projets touristiques qui seront prêts en 2010.
Et est-ce que c'est commencé ou est-ce que c'est un projet?
Non, c'est commencé. Et chaque projet, il est fait par une compagnie indépendante. D'accord. Et le tout fera Dubai Land.
Et celui-là
celui-là, le Snowdome, c'est OK, ça va être prêt en décembre 2008. Il va être ouvert.
Est-ce que les appartements sont déjà vendus, sont en vente?
Oui, ils sont en vente déjà. On a déjà vendu 30%.
30% des appartements sont déjà vendus. Oui. OK, combien ça coûte un appartement?
Une chambre et salon, ça fera dans les 700 000 dirhams, ça veut dire dans les 120 000 euros. Et ça, ça va être unique au monde. Hein. Ouais. Ça va être connu n'importe où dans le monde. C'est de ski au milieu de Dubaï. Pour un projet unique comme celui-là.
Quelle est la longueur maximum de la piste?
La piste est une piste rotative. C'est-à-dire que vous pouvez skier tant que vous voulez. Ça va tourner.
Je comprends pas.
Là, vous êtes en bas un moment. Ouais. Après, hop, c'est ça. Vous êtes en haut.
Oui, je descends et ça remonte.
Et ça tourne.
Il n'y aura pas les remontées mécaniques?
Si, il y aura des remontées mécaniques. Parce qu'il y aura des restaurants et des cafés en haut des montagnes.
Quel sera le menu dans les restaurants? Il y aura de la fondue, il y aura...
Bien sûr, le menu, ce sera des cuisines du monde entier.
Abdelaziz, vous croyez vraiment que ça va exister, ça, ou vous êtes en train de plaisanter?
On a déjà commencé les travaux.
C'est vrai?
Oui, et c'est un projet qui va coûter 1 milliard de dollars US. On rigole pas, c'est...
On rigole pas, non?
Ah oui. On rigole pas avec 1 milliard de dollars.
Welcome to the city of Arabia. A grand, glorious, and groundbreaking 20 million square foot development lying at the heart of Dubai Land and serving as a majestic gateway to the new world.
La plus grosse, la plus grande, la plus givrée, imaginez à partir pour Dubaï pour vous taper une fondue. C'est pas mal quand même, hein? Une fondue à Dubaï. Eh ben, ça va être possible. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui vont être possibles, qui sont déjà possibles à Dubaï. Mais n'oubliez pas la phrase que vous venez d'entendre. On ne rigole pas avec 1 milliard de dollars, même si c'est un petit grain de sable. 1 milliard de dollars à Dubaï, il y a vraiment beaucoup d'argent à Dubaï, et beaucoup d'argent qui passe, et beaucoup d'argent qui reste. Voilà, c'est un investissement pharaonique, on l'a dit et redit, et cette énorme façade, ce formidable miroir aux alouettes, c'est une organisation, on l'a entendu ce fin connaisseur, ce français qui dit Dubai Inc. Effectivement, c'est une entreprise, c'est géré comme une entreprise, avec la loi de l'entreprise, c'est-à-dire la loi du profit et le plus grand profit possible. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Singapour, ça ressemble à Zurich. C'est très organisé, très propre, très riche, très clinquant, très glacé. Il y a un son permanent à Dubaï, c'est le son de la climatisation. Sauf évidemment si vous faites partie des 80% de la population. Non, pas vraiment, de ceux qui sont là, et qui travaillent en extérieur. Et eux, c'est pas le bruit de la climatisation qu'ils entendent, c'est le bruit des marteaux piqueurs ou le bruit des collègues, des copains qui tombent évanouis à cause de la chaleur. Alors c'est entre ça et cela, ceci et cela que nous baladons aujourd'hui dans Dubaï. Là, on est à l'ATM, l'Arabian Travel Market, On a essayé de voir avec Give Anctil et notre ami Padma de New Delhi qu'est-ce qu'on pourrait bien s'acheter. Nous, ça nous intéresse aussi un petit peu. C'est pas qu'on a des sous, mais enfin, on voudrait bien savoir après tout. Donc, voilà pourquoi on était là. Puis, un peu pour savoir quels étaient les projets de ces gens-là. Là, ce qu'on comprend avec Dubai Land, c'est que c'est fini pour Euro Disney, pour Disney World, tout ce que vous voulez. Ça, c'est fini. Ça va être 10 fois, 50 fois plus étourdissant, à commencer par cette piste de ski. Vous n'avez pas besoin de remonte-pente, puisque quand vous êtes en bas, vous avez compris, hop, la piste remonte. Beaucoup d'autres projets assez cinglés, mais sachez que tous sont en cours de réalisation, qu'ils se réaliseront. On ira voir ce qu'il y a derrière, le côté financier, les tireurs de ficelles internationaux qui sont bien sûr autour de cette charmante petite histoire. Et puis, on va aller voir ceux qui travaillent, ceux qui font Dubaï. Est-ce que c'est le projet le plus fou, celui-là ?
Selon moi, oui. Il y a d'autres projets, comme par exemple, vous voyez, c'est la plus grande tour au monde.
Ouais.
C'est Burj Dubai, plus de 800 mètres.
Ouais.
Comme vous voyez Palm, les îles du Palm, qui est là. Au début, quand les gens parlaient du Palm, personne n'y croyait. Les îles.
C'est le robot qui parle.
Les îles. Personne ne croyait au début. Et maintenant, elle est là. Burj Al Arab aussi, Burj Al Arab, vous connaissez. C'est le seul 7 étoiles au monde.
7 étoiles au monde.
C'est le seul 7 étoiles au monde. Personne n'y croyait, et bien il est là. Et à Burj Al Arab aussi, il y a des restaurants qui sont sous le niveau de la mer.
On va manger sous la mer.
Vous avez des poissons autour.
Des requins et des dauphins.
Des requins, je ne sais pas, mais
des poissons.
Les requins, ils sont ailleurs ici. Ils sont pas dans la mer.
Ils sont où? Ils sont dans le business?
Voilà, ils sont dans le business. Des gros requins blancs. Il y a des investisseurs qui mettent beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts dans ces...
Des efforts, ils mettent de l'argent, c'est pas des efforts.
Et tout ça, c'est la vision de Cheikh Mohammed.
Uh-huh.
C'est le prince de Dubaï.
Alors qui va construire tout ça? Il va falloir beaucoup d'ouvriers, beaucoup de...
Ici à Dubaï, les chantiers, on travaille 24 heures sur 24.
Mais j'ai entendu qu'il y avait des manifestations récemment, il paraît que les conditions de travail sont pas terribles.
Ça dépend des sociétés. Ici, c'est interdit de travailler de midi à 4 heures.
Pendant 2 mois d'été?
C'est interdit.
Depuis 2 ans.
Si les compagnies font travailler, les employés pendant ce temps-là, ils auront des amendes. Mais entre nous, il y a des compagnies qui font travailler entre midi et 4 heures, ils payent l'amende. Ils préfèrent payer l'amende et faire travailler les gens pour faire ça, pour avancer le projet.
C'est le
capitalisme. C'est Dubaï.
C'est le capitalisme, c'est Dubaï.
C'est pas comme en France.
Non.
Il n'y a pas de syndicat,
Il n'y a pas de droit du travail.
Voilà, pas de droit à la grève.
Pas de taxes, pas d'impôts.
Pour l'instant.
Mais vous croyez que ça va venir, vous, mademoiselle?
Oui, parce qu'à force qu'on voit les Indiens et les Pakistanais exploités comme ils sont, et on va bien un jour, on va mettre un stop. Hein.
Ça vous choque?
Oui et non, parce que c'est triste à dire, mais dans leur pays, c'est pire.
Voilà.
On arrive à Abu Dhabi, mais c'est invraisemblable. Là, vraiment, c'est invraisemblable. Cette file de camions, il y a 2 km de camions. On vient de franchir un parking de 2 km, d'énormes camions de construction, d'énormes camions de chantier à 8 ou 10 roues, qui sont des bennes, en fait, oranges, avec des avants blancs, comme ça, et qui sont les camions dans lesquels travaillent ces gars-là, qui sont des travailleurs, tous en bleu, d'ailleurs. Et c'est l'entreprise Al Jabbar. Et on nous a dit que c'était une des pires entreprises du coin des Émirats. En tous les cas, ici à Abu Dhabi, on va essayer d'entrer. Je ne sais pas du tout comment on va être reçu, comment on va pouvoir entrer dans cette entreprise. Mais enfin, on va essayer. On a essayé, mais ça n'a pas été vraiment un succès. Ça n'a pas été un succès du tout. On a essayé de pourparler avec les gardiens de ce camp de travail, enfin disons foyer, parce que ça s'appelle labor camp, mais on va dire foyer, de quelques milliers de travailleurs qui sont là-dedans, mais on n'a pas pu entrer, on n'a pas pu visiter, on nous a pas autorisé. Et c'est très difficile, on n'est pas bienvenu du tout. Et là, devant l'entrée donc de ce camp de travail, foyer encore une fois, eh bien voilà des
des jeunes travailleurs qui viennent du Bangladesh, qui ont l'air tout à fait crevés. Ils ont des beaux t-shirts tout propres et des belles casquettes toutes propres. Et ils sont assez hébétés et inquiets.
Alors ça, c'est que des jeunes gens, enfin plus ou moins jeunes, qui viennent juste d'arriver de Dhaka au Bangladesh. Ils ont fait 2 jours de voyage et ils sont un peu fatigués parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours, disent-ils. Et on vient de leur donner des casquettes, des belles casquettes blanches avec écrit Al-Jabbar Transport Général, Contracting Establishment. Et puis, ils ont les t-shirts de Al-Jabbar. Morning Sun Enterprise. Combien vous êtes?
Nous sommes 62.
Mais nous sommes arrivés
ce matin et ils nous ont fait faire des examens médicaux. Ils disent qu'on n'aura pas de travail.
Ah, ils vous disent que vous n'aurez pas de travail?
Ils disent qu'il faut attendre encore 3-4 jours.
Là, là, vous allez dormir, ils vont vous faire dormir?
Non, pour le moment, on ne va pas trouver.
Est-ce que vous avez mangé?
Non.
Vous n'avez pas mangé? Et vous avez bu?
Du robinet, on a bu de l'eau, un peu d'eau. Nous avons beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés.
Est-ce que vous avez donné de l'argent là-bas pour partir à Dhaka? Est-ce qu'on vous a fait donner de l'argent pour partir?
Deux lacs,
c'est beaucoup d'argent.
J'ai vendu ma propriété, mes terres, les biens qu'on avait.
Vous avez emprunté de l'argent pour avoir le visa?
Pour le visa.
Qu'est-ce que vous espériez? Vous espériez trouver du travail tout de suite?
C'est ce qu'on nous avait dit dans notre pays. Pour l'électricien, ils ont promis 600 dirhams par mois.
Pour l'électricien, toi tu es électricien?
Yes.
600 dirhams. Et les autres?
Carpenter.
Combien?
600 dirhams, on nous a dit. Maintenant, ils disent 500. Quand 500. On est parti, on avait dit 600. 600.
Mais ils vous ont quand même donné des t-shirts et des casquettes. Vous êtes quand même content d'avoir les t-shirts et la casquette.
J'étais content, mais maintenant j'ai faim, donc je ne suis plus content. Non, on veut travailler, comme ça on aura de l'argent.
Ouais.
C'est tout ce qu'on veut.
Voilà.
Il y a la sécurité qui arrive, qui leur demande de dégager.
Voilà, ils viennent de Dhaka, au Bangladesh, et je parlais de ces émeutes qui viennent d'avoir à Dakar, au Bangladesh, les femmes qui ont fait ces émeutes contre, mis le feu à des ateliers de confection, ben ça peut tout à fait être leurs frères ou leurs compagnons qui sont là et qui viennent à Dubaï pour travailler. Les salaires en dirhams, ça donne à peu près entre 100 et 125 euros mensuels. Voilà ce qu'on leur a promis, c'est pas du tout sûr qu'ils les aient. Et là, les sommes qu'indiquent ces Bangladais, les sommes qu'ils ont données pour obtenir ce visa, entre guillemets, évidemment que c'est un vol de la part des passeurs, quoi, hein. C'est une somme de 2200 euros, ça donne une idée, quoi. Ils vont gagner peut-être 100 à 130 ou au mieux 150 euros par mois, et ils ont déjà d'abord à rembourser ces 2200 euros, c'est dire s'ils ne sont pas sortis de l'auberge et s'ils ont ce sentiment en arrivant d'être prisonniers. Alors c'est une figure tout à fait classique, c'est une technique tout à fait classique d'asservissement. Évidemment que on a entendu cette phrase dans leur pays c'est pire. Oh là là, oui d'accord, mais dans leur pays c'est pire. Combien de fois on a entendu cette phrase et combien de fois l'avons-nous pensée? Cette phrase pour écarter les mouches malodorantes de la mauvaise conscience devant la misère du monde. Il se pourrait que le talon d'Achille de Dubaï, cette paillette, ce miroir aux alouettes, soit quand même justement son image, et que les conditions de travail de ces gens soient ça la fout mal, quoi. Ça la fout mal. Alors, on se méfie de nous, on veut pas trop nous parler, il y a des surveillants qui sont pas loin, mais il y a quand même deux travailleurs qui sont là, qui nous font signe, qui veulent nous parler, et on grimpe dans la voiture.
ये गांव में इतना इधर तंग है, इतना तंग है कि अपना बीबी जी बच्चे इधर छोड़कर उनको मैं दूंगा तनख्वाह नहीं है, चार चार साल जा नहीं सकता अपनी बीबी छोड़कर पाकिस्तान में, चार चार साल इतना सा जलील होने वाले तो खेजा रहे हैं, इतना पैसा नहीं है जे वापस जाऊं.
Nous avons laissé nos femmes, nos enfants derrière au Pakistan. Ici, les conditions sont horribles. On n'est pas payé pendant des mois, parfois. Et nous sommes coincés ici. Maintenant, nous ne pouvons même pas retourner chez nous, rentrer chez nous, parce que nous n'avons pas assez d'argent pour rentrer.
Actuellement, vous avez du travail ou pas ?
Oui.
Non.
Alors, vous n'êtes pas payé en ce moment ?
Non. Non, si on ne travaille pas, comment est-ce qu'on va gagner?
Donc vous attendez qu'on vous appelle pour travailler?
Non, nous attendons pour rentrer au Pakistan. Parce que nous en avons marre, nous voulons rentrer.
The Mall of Arabia, a pharaonic-themed entertainment and leisure capital. Its striking facade beckons you to a global shopping extravaganza. With over 1,000 retail outlets, housing the best of international fashion brands, more than 10,000 parking spaces, a state-of-the-art stage for theatrical performances, a 15-screen cinema, a 5-star hotel, and a world-class spa, is not just a mall, but a unique lifestyle experience.
This is actually only the Mall of Arabia, which is going to be the biggest mall in the world.
Ça, c'est juste le Mall d'Arabie, c'est-à-dire le centre commercial qui va être le plus grand centre commercial au monde.
It's at about 400,000 square meters.
Ça fait à peu près 400 000 mètres carrés de commerce.
Okay, and you're looking at a design that represents ancient Middle Eastern countries like Petra, Jordan, Egypt.
Et là, l'architecture, le design est une évocation des anciennes cultures du Moyen-Orient comme Petra en Jordanie, l'Égypte.
And this is the rooftop of the mall in itself. You have two hotels and 26 chalets.
Alors là, ce que vous voyez là, c'est le toit du centre commercial lui-même où il y aura deux hôtels et des chalets aussi, plus d'une vingtaine de chalets.
They are doing the piling right now.
Maintenant, ils sont en train de faire les fondations en ce moment.
C'est immense. Combien d'ouvriers travaillent là-dessus?
Such a lot of workers.
Énormément, énormément.
But this is what you're looking at right now is only a little part of the city. This is only the mall. The city has 34 towers.
Est-ce que vous voyez là? Oui, là c'est juste le centre commercial qui sera le plus grand du monde, mais la ville, il y aura la ville qui va avec plus de 34 immeubles.
And it has waterways about 11.5 kilometers long throughout the whole city.
Et des canaux qui font plus de 11 kilomètres de long qui traverseront la ville.
Actually have our own internal monorail system, a train system that takes you throughout the whole city.
Et donc il y aura notre propre monorail qui fera le tour de toute la ville.
Oui, on aperçoit le monorail.
Sure.
Et qui va venir habiter là? Mais qui vous attendez ici?
Everyone. I mean, our target market is everyone because you can't just target a small percentage of the market.
Nous, c'est tout le monde. Notre cible marketing, c'est tout le monde parce qu'on peut pas cibler ça sur une petite niche.
And by when are you planning to complete it?
Inshallah, 2008.
Inshallah, ça sera fini en 2008.
Comment vous êtes venu ici au départ?
Parce qu'on nous a dit que vous allez pouvoir épargner, économiser 10 000, 12 000 roupies par mois.
Et qu'est-ce que vous avez fait pour venir? Vous avez fait comme les jeunes qui viennent d'arriver de Dakar,
au Bangladesh, qu'on vient de voir là, qui ont vendu tout chez eux, qui ont vendu leurs biens, leurs terres, qui sont endettés, et tout ça parce qu'ils ont été recrutés par des émissaires de la compagnie qui est là, qu'on vient de voir, qui est la compagnie Al-Jabbar, qui envoie des gens là-bas pour recruter. Donc des gens qui sur place se font payer par ces pauvres gens pour leur donner un visa et qui arrivent ici et qui n'ont pas bouffé depuis deux jours, qui attendent là avec leur t-shirt et leur casquette blanche. Et alors, quand est-ce que vous êtes rendu compte que vous vous étiez fait piéger ?
Dès qu'on arrive, regardez l'état, le lamentable état des Bangladeshi là-bas. Dès qu'on arrive, on comprend.
À quoi ressemble votre chambre ?
Il y a de la place pour 4 personnes, mais ils en mettent 8 par chambre. Nous travaillons toute la journée et puis quand nous retournons le soir, on n'a même pas d'eau pour se laver.
Et vous avez à manger quand même.
Ce qu'on nous donne, même les chiens ne vont pas le manger. Même les chiens vont refuser. 350, c'est ce qu'on gagne. Même avec les heures supplémentaires, etc. Même si on arrive à gagner encore 200, 300, on paye aussi les intérêts. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui nous reste?
Est-ce que vous arrivez quand même à envoyer de l'argent au pays?
Les chauffeurs, tous les 2 mois, 3 mois, ils arrivent à envoyer pas mal d'argent, 20 000, 30 000 roupies. Mais les ouvriers comme nous, même après 6 mois, on arrive à peine à envoyer 10 000 roupies dans les meilleurs des cas.
Ouais, donc pour arriver à envoyer un petit peu d'argent au pays, il faut se priver, se priver, se priver.
Oui, c'est très difficile, hein. Nous avons des dettes aussi bancaires, etc. parce que nous avons vendu des choses. Donc on passe toute notre vie à rembourser ces dettes.
Avec l'argent que vous envoyez là-bas, tu fais vivre combien de personnes, toi, par exemple ?
12 personnes.
Avec ce que tu envoies là-bas tous les 3 mois, tu fais vivre 12 personnes. Et toi, toi aussi ?
Il y a 8 personnes dans ma famille. Avec beaucoup de difficultés. Oui, nous n'arrivons même pas. Moi, par exemple, je n'arrive même pas à dormir la nuit jusqu'à minuit, 1h du matin, parce que je suis tellement angoissée et inquiète. Comment faire? Est-ce que je pourrais rentrer ou pas?
Vous rêvez de rentrer au pays?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Toi aussi?
Oui, moi je vais partir bientôt. Moi aussi je pars bientôt.
Cette musique peut à la fois illustrer le désarroi de ces deux Pakistanais dans cette voiture arrêtée dans la nuit, dans un coin planqué. Ils parlent et nous racontent leur histoire. Mais c'est une musique, écoutez bien, qui peut servir à évoquer aussi le désert, les mystères, la nuit, les parfums, les Bédouins. Et nous retrouvons au salon ATM, Arabian Travel Market, un projet de Dubai Land. C'est bien la musique.
À côté.
C'est quoi votre projet?
Dubai Heritage Vision, ça ouvre en septembre. Katrina, mais alors votre projet à vous, c'est beaucoup moins spectaculaire.
C'est l'écotourisme, justement. Pour une fois, on change, on retourne aux sources de Dubaï.
Ah d'accord.
C'est un village bédouin, 100% traditionnel. Et le clou du spectacle, c'est une société française d'ailleurs qui le fait. C'est un show de 75 minutes avec des artistes du Maroc, de Tunisie. On veut une influence arabe 100% de tous les pays arabes dans le monde. Et donc ça va être un spectacle comme ça, un extravaganza comme on dit en anglais. Avec la technologie, donc c'est une combinaison de technologie et tradition. Avec des écrans d'eau qui vont s'élever, les dunes à l'arrière, vous imaginez, vous êtes entouré de dunes sous le ciel étoilé. On a un amphithéâtre ici, 100% arabe aussi, construit avec la pierre, comme dans Gladiator, le film.
Et comme dans le film. Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Oui,
et
oui,
on
oui,
voit
oui.
ce show entouré de dunes, la nuit, et ça sera tous les soirs.
Ça va être un petit peu comme le Puy du Fou, un peu
voilà,
en Vendée.
Bah c'est la même société.
Ah, c'est Philippe de Villiers.
Prisme International, ils ont une société à Lyon. Et ça va être fabuleux, les acrobates, cracheurs de feu, les chameaux. Ça va être aussi un conte des mille et une nuits. Tout en danse, en combat sur scène. Très grand. Et puis ici, il y a tout un village bédouin avec une possibilité de dormir dans des tentes VIP, mais bédouine aussi à 100%. Donc,
VIP et bédouin, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu d'air conditionné parce que bon, il fait chaud.
Oui.
Mais c'est magnifique. Et vous voyez le coucher de soleil avec votre famille ou votre partenaire, vous fumez une chicha. C'est naturel.
Padma, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'on achète? La neige ou le désert? Hein?
Ni l'un ni l'autre. On est obligé maintenant de créer des choses authentiques.
Donc vous êtes, on peut vous dire que vous êtes prisonnier de ce pays.
Même les prisonniers ont une vie meilleure parce qu'au moins ils ont à manger régulièrement. Nous, si on a quelque chose à manger aujourd'hui, pendant deux autres jours, on ne nous donne rien. Et sur le chantier, même si on s'assoit pendant deux minutes, ils nous déduisent ça sur le salaire.
Est-ce que tu es marié?
Oui,
je suis mariée, j'ai trois enfants, ils sont tout petits.
Et toi?
Oui, je suis mariée aussi.
Mon petit a aussi marié. Et mon frère est un petit peu. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Mon frère est mort. Donc, il est aussi en banque.
J'ai emprunté beaucoup d'argent à la banque pour venir ici parce que j'ai des frères qui sont très petits, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ça fait 4 ans maintenant et je ne suis pas retournée au Pakistan même une seule fois.
Depuis 4 ans, tu n'es pas retournée au Pakistan?
Je suis retournée au Pakistan. Je suis retournée au Pakistan. Je suis retournée au Pakistan.
J'ai fait une demande de congé, mais ils n'ont pas accepté parce que j'ai encore des dettes envers eux aussi. J'ai des dettes au Pakistan, j'ai des intérêts à payer ici, donc ils ont bloqué ma demande.
Le club de remise en forme d'Assawan réconcilie en beauté le corps et l'esprit.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le petit enclos? Des animaux?
Des animaux, des chèvres, des chameaux. On retrouve le village.
Ah ouais.
Il y aura des gens traditionnels qui habiteront, des bédouins qui habiteront là.
Il y aura des vrais bédouins qui seront là, quoi.
On veut des vrais bédouins. Il n'y aura pas de Russes, pas de Chinois.
Ah, des vrais bédouins
qualité,
qui seront là.
La qualité et la tradition.
Ah d'accord. Donc c'est des bédouins qui viendront vivre leur vie de bédouin.
Tout à fait.
Parmi les touristes,
on leur propose de venir habiter ici.
Et il faudrait qu'ils soient en costume de bédouin.
Oui, ils changent pas, hein. Ils sont comme ça depuis le début.
Ouais.
Ils font leur propre costume. Hein.
Oui, ils font leur petit feu de bédouin,
voilà,
leur petite chanson de bédouin, leur petite musique, leur petit chameau. Ils ont des chameaux?
Oui, des chameaux. Et, les personnes qui visiteront pourront voir vraiment comment ils sont, échanger un thé, etc. Enfin.
Ah d'accord. Et ils sont d'accord les bédouins pour venir
Les
bédouins?
Oui, parce qu'ils voient que c'est quelque chose de. Bon, bien sûr, le show, c'est l'élément qui va faire que notre projet soit. Qui vaille le coup quand même, ce sera de vendre le spectacle tous les soirs. Mais pour eux, ils retrouvent leur désert. Hein. De toute façon, même pendant la construction, on a eu des bédouins nous visitant.
Mais alors, où est-ce qu'on va mettre les voitures?
Ici, tout est prévu. Ce sera des palmiers, donc un vrai parking naturel aussi. Avec juste des pierres pour délimiter les places.
Bah dis donc.
Ouais.
Et alors vous, Catherine, parce qu'on demandait à Abdelaziz, vous, qu'est-ce que vous faites ici à Dubaï?
Mais écoutez, moi je viens de faire un DESS, maintenant master en France, l'année dernière. Et je me suis dit, avec mon bagage, Dubaï c'est l'endroit où il faut être. Je parle 4 langues couramment, les langues européennes. On a besoin de faire connaître Dubaï dans le monde. Donc ils n'attendent que ça, que des gens de mon profil pour ce genre de projet mondial.
Et comment c'est la vie à Dubaï?
Super.
Ah bon?
Ah oui. Je suis consciente des décalages qu'il y a avec malheureusement les gens des pays du tiers-monde qui viennent travailler ici. J'en suis consciente, on le voit. Malheureusement, il y a des problèmes à Paris aussi. Hein, les Africains entassés dans les hôtels qui brûlent. Il n'y a pas de solution malheureusement pour l'instant. Mais c'est une vie d'expat, c'est le soleil. Nous, on reste authentique.
Si jamais je rentre au Pakistan, je vais me suicider, mais je ne reviendrai plus jamais ici. Je ne remettrai plus le pied ici.
Pourquoi tu parles de suicider?
Parce que j'en ai marre de la vie.
Oui, mais t'as une femme, t'as des enfants. On ne suicide pas quand on a des enfants. Ah, et une femme.
Mais j'ai pris beaucoup de dettes. Mais ma famille vit par ces dettes. Quand je vais rentrer, la personne à qui j'ai emprunté de l'argent, est-ce qu'il va me laisser vivre en paix? Comment je vais faire maintenant? J'ai 5 dirhams dans la poche. Ma carte est bloquée. La carte de travail, le passeport, le visa. J'ai pas de véhicule. Personne ne va me déposer nulle part. Il n'y a personne qui va héberger les gens comme nous. Comment est-ce qu'on va faire? Dites-nous. Comment est-ce que je vais faire pour rentrer? Moi, je ne mens pas. Je suis une personne très réglo, très correcte. Dites-moi, comment je vais faire? Et puis, dans le pays, j'ai des dettes. Je n'ai pas assez de ressources même pour me rendre à l'ambassade. Avec 5 dirhams dans la poche, les gens à l'ambassade ici, ils nous écoutent même pas. Tout est une question d'argent. Une personne qui a de l'argent, c'est lui qu'on écoute. Celui qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il va faire?
Est-ce que vous avez essayé de faire des grèves?
Même si on fait la grève, personne n'écoute. Il faut même pas employer ce mot dans Dubaï. Même pas le mot grève. Parce que même si, supposons que nous soyons 100 à faire une grève, le lendemain matin, on est expulsé. Et puis les autres, ils m'ont pas osé. Donc les grèves, il faut même pas en parler.
Est-ce que vous allez quand même parfois vous promener un peu en ville?
Non. Non.
Les jours de congé, vous allez vous balader quand même?
Non. Si on a de l'argent, on peut sortir. Non, okay, comment? On gagne très peu. Et même dans ça, il faut qu'on envoie de l'argent à nos familles une fois tous les 6 mois.
Mais ça
on
doit
vit
être...
dans une jungle. On est presque devenu fou.
Dubaï, Eldorado Libéral, un reportage avec Guy Van Til, montage Raphaël Moutern, merci à notre belle Padma, merci à Abdelaziz, Katrina et Mike, merci à nos amis indiens, pakistanais et bangladais. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Valentin Vaner, c'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Le Pascarillo et de Christophe Imbert pour le répondeur dont le numéro est 01 56 40 37 37.